RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, c'est parti pour les GG, pour les grandes gueules en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. Nous sommes là, bien évidemment, avec vous jusqu'à midi, comme tous les jours. Vous avez le 32-16 à votre disposition pour discuter, dialoguer avec les grandes gueules. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Et nous sommes en direct et surtout, on est champions.
Ah oui, c'est champions. Vrai, nouveau titre.
On est 14e
titre pour le Paris Saint-Germain, monsieur Bruno Poncé.
5e de suite.
Ouais. Bah, on verra le 30 mai surtout maintenant.
Bien sûr.
Non,
on vous souhaite la défaite.
Oui. On vous souhaite là.
Il reste ça, Marseillais, c'est toute la défaite des autres. Ah et moi j'ai fait pareil pendant 20 ans.
Mais moi j'ai jamais souhaité la défaite de Marseille, ça arrive tout seul.
Oh, oh là là.
Oh, le coup, bah, oh là, oui. Qui sont pas très foot, c'est Coupe de France, c'est ça. C'est
Coupe de France, ça c'est pour moi. 22 mai prochain, c'est la finale face à Lens. Lens battu donc hier soir par le Paris Saint-Germain. Vous les avez entendus, Joël Dagoceri, la coach de Villela, tout comme Bruno Poncé, le cheminot, et Antoine Dier, ce consultant. Bonjour monsieur dame. Nous serons rejoints tout à l'heure par Patrice Duhamel. Il sera avec nous à 11h. Patrice Duhamel, éditorialiste politique, l'ancien directeur général de Radio France et France Télévisions, avec un livre très intéressant sur la maladie de ceux qui nous ont gouvernés. Jacques Chirac, François Mitterrand, Georges Pompidou, le général de Gaulle, et des révélations sur la maladie de Georges Pompidou lorsqu'il est arrivé à l'Élysée. En fait, il était déjà malade et ça se base sur des écrits d'un médecin. C'était le médecin de Georges Pompidou. On en reparlera tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, on est passé à la transparence totale après avoir caché aux Français la vérité sur les présidents? Patrice Duhamel sera avec nous à 11h. Premier sujet de discussion. On va vous raconter cette histoire. Vous l'avez sûrement vu dans les journaux télévisés. L'histoire de ce pédophile présumé piégé par un internaute.
Et si on se voit et que je t'emmène au parc, donc là, tu vas me connaître. Donc là, est-ce que je pourrais t'embrasser, par exemple?
Je t'avoue, je ne peux pas prédire le futur. Imagine que tu as 14 ans et quelqu'un... Imagine.
Alors, c'est déjà un tour de force technologique aujourd'hui, ce que peut permettre effectivement l'intelligence artificielle, les trucages. C'est-à-dire que c'est un jeune garçon qui est derrière son écran et qui fait apparaître au pédophile présumé, il lui fait apparaître une jeune fille âgée de 14 ans. Mais lui, il est derrière, derrière la jeune fille.
Une sorte de chasseur de pédocriminels qui crée effectivement, une jeune fille de 14 ans par l'intelligence artificielle. Donc cet ancien prof de PS de 66 ans pense et échange avec cette adolescente, et en réalité, il échange avec ce vidéaste qui est donc spécialisé dans la traque des prédateurs. Alors, ces avances ont été suivies par beaucoup de monde parce qu'elles étaient diffusées en direct. Il y a eu au moins 44 000 personnes qui ont assisté à cet échange. Plusieurs ont reconnu d'ailleurs le sexagénaire. Il s'agit donc d'un ancien cadre de l'Union nationale du sport scolaire, ancien prof de PS. Il a déjà été condamné en janvier 2025 pour détention et captation d'images à caractère pédopornographique. Il s'est rendu lui-même à la police. Il a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte, notamment pour proposition sexuelle faite à un mineur de moins de 15 ans. La méthode est efficace, on le voit. Est-elle contestable ou est-ce que vous l'applaudissez?
Qu'est-ce que vous en avez, Antoine?
Déjà, je suis au-delà de l'horreur des images de ce que dit ce vieux monsieur dégueulasse. Je suis vraiment bluffé par la technologie. C'est superbe de pouvoir avoir cet avatar en direct live. Ensuite, moi, je pense que toute méthode est bonne à prendre. J'ai pas regardé au plan juridique. Est-ce que y a un juriste qui va nous dire non, c'est interdit, ce n'est pas recevable? Oui, mais en fait, je veux pas aller sur ce débat-là. Je trouve que c'est formidable d'avoir réussi à débusquer, à montrer à tout le monde ce vieux dégueulasse qui le pire, c'est qu'il a déjà été condamné. Ouais. Et donc il continue. Et donc il y a le fait de le débusquer et il y a le fait de comment on fait pour qu'il s'arrête, ces gens-là. Il a pas dû être sanctionné suffisamment, il a pas dû être suivi. Enfin je veux dire je suis abasourdi par le fait que il a été condamné il y a un an seulement, moins d'un an, et il y avait déjà eu des histoires avant. Donc voilà, comment on fait pour les surveiller, pour les arrêter, pour les sanctionner suffisamment pour qu'ils aient plus envie de recommencer ça?
Bruno,
moi je trouve que déjà toutes les méthodes sont bonnes à prendre, il faut tout faire. Après, il a pris une méthode de la police, parce que la police, souvent, ils t'expliquent quand ils font de la recherche sur Internet, ils prennent la place de quelqu'un, donc ils endossent le rôle d'une gamine de 12 ans, de ça. Et en fait, c'est comme ça qu'ils arrivent des fois à choper des mecs, parce qu'ils donnent des rendez-vous. Et après, c'est la police qui arrive, qui chope le mec, et puis avec les preuves qu'ils ont sur lui. Et, mais ce qui est quand même assez effroyable, c'est qu'aujourd'hui, tu sois obligé de passer par des gens du privé, des gens enfin comme toi et moi, on pourrait le faire. Hein, je veux te dire, à un moment donné, on avait la technologie, ou si ici c'était, on peut en parler avec Abel, hein, Abel Israël nous dit la même chose, c'est qu'en fait, à un moment donné, tous les moyens vont être bons à prendre pour arrêter ces gens-là, parce qu'il y a rien qui l'arrête. Il a été condamné. Ce matin, il y avait dans un journal d'une autre chaîne une gamine qui, en 2013, qui avait 12-13 ans, 2013, qui s'est fait agresser sexuellement par cette personne, qui lui promettait, qui lui demandait des bisous, qui lui demandait des trucs, tu vois. Elle a 13 ans, il avait déjà une cinquantaine d'années. Et donc en fait, il continue, il trouve ça normal. Et puis si, par exemple, parce qu'il y a un risque que ça soit pas recevable juridiquement, et que en fait, derrière, judiciairement, tu peux pas aller plus loin parce que c'est pas recevable, parce que pour plein de raisons, bah c'est pas grave. Déjà parce que socialement, il va être marqué. Et puis qu'à un moment donné, bah après, enfin, si ça va pas plus loin au niveau juridique, parce que c'est pas légal, ce qui est possible, hein, malheureusement, pour l'instant, ça s'est pas légalisé. Mais au moins que socialement tu le casses, et puis qu'à un moment donné on arrive quand même à arrêter ces gens. Mais
la vidéo a été vue plus d'un million de fois sur les réseaux sociaux.
Mais tu te rends compte,
là nous on a flouté son visage.
On voit sa tête
sur les réseaux sociaux, tout le monde l'a vu, et même dans les journaux télévisés.
Ça a été diffusé en direct, donc
quand même bien qu'en 2026 ça devienne une vraie cause nationale. On avait entendu dire que ça le serait, ça ne l'a pas été. Il y a quand même ce maire de en Bretagne, je crois, là, qui a fait des choses effroyables avec les amis de ses enfants, qu'ils aient des pyjamas parties. Mais je trouve qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête.
Quand on voit ça, on se dit, mais finalement, la police pourrait faire la même chose. Alors, elle le fait également, parce que la police infiltre les réseaux pédophiles, les réseaux djihadistes et autres. Mais je veux dire, à la place de ce vidéaste amateur, ça pourrait être un policier. Ça serait dans un cadre légal.
À ce niveau-là, ce n'est plus un vidéaste amateur, c'est un héros.
Enfin,
c'est un héros, mais ce monsieur doit être reçu par Emmanuel Macron et décoré avec une médaille. Je suis désolée, c'est autre chose que de traquer,
embaucher.
Oui, mais non, mais même, non, ils vont le rendre, ils vont lui mettre plein de règles. Là, il est en freestyle et il fait très bien son travail. Donc c'est très bien. C'est quand même autre chose que d'aller traquer les allées et venues du jet privé de Bernard Arnault. Tu vois, là quand même, c'est du traquage qui a une utilité publique à haute valeur ajoutée.
Ou les piscines non déclarées.
Tout à fait. C'est du travail qui a à haute valeur ajoutée. Donc déjà, ça c'est la première chose. Sur la technologie, je la connaissais, parce qu'en fait, vous avez des personnes qui le font aussi, donc des hommes qui se, pas déguisent, mais en tout cas qui utilisent l'IA pour se faire passer pour des jeunes femmes très jolies, etc., sur des trucs comme OnlyFans, pour avoir de l'argent. Donc voilà, il y a plein de, et lui, il a décidé d'utiliser cette technologie-là, au lieu de se faire de l'argent avec une fille qui est en soutif, il a décidé de l'utiliser pour aller traquer des pédophiles. Donc merci monsieur, vraiment bravo. Et sur la troisième chose, sur ce monsieur, ce gros dégueulasse, pardon, mais j'ai du mal à être froide.
C'est un prof, donc pardon.
C'est horrible.
Mais prof à la retraite, moi je m'interroge, est-ce qu'il ne faut pas enquêter
sur
sa carrière de prof?
Mais ils sont souvent, souvent dans des professions avec accès facilité aux gamins. D'accord.
Si on enquête sur ce type, et d'ailleurs.
Mais on a déjà enquêté sur ce type.
Mais non, il avait été attrapé pour détention et captation d'images pornographiques. Mais est-ce qu'on a enquêté sur son passé de prof? Il était en contact avec des gamins, sans doute pendant 30 ans. Prof de sport, en plus, parfois t'as un contact même physique avec tes élèves. Donc, moi, ça, je voudrais savoir, est-ce que l'éducation nationale a fait une enquête?
On n'en est plus à est-ce qu'on a enquêté. Il faut dire la vérité, on a 160 000 enfants par an dans ce pays qui sont agressés sexuellement. J'en ai été une, donc je peux en parler. 160 000 enfants agressés sexuellement. On a un gros problème de pédocriminalité en France. D'ailleurs, exactement, dans la famille.
C'est l'iceberg, j'ai
vu. C'est le haut de l'iceberg. Oui, bien sûr, c'est ceux qui ont osé se plaindre, etc. Moi, je vais vous dire, quand tu es une femme et une jeune fille en France, je peux te dire que les sollicitations que tu reçois d'hommes plus âgés, voire très âgés, entre 10 et 15 ans, c'est hallucinant. Je te dis le nombre de fois où à 12-13 ans, toute seule, déjà en me déplaçant sans mes parents, etc., j'ai été sollicitée par des adultes dans la rue. C'est juste un scandale.
Et
d'accord,
c'est pas que des vieux pervers. Et que des, aussi que des 25-30
ans. Oui, 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 oui. Voilà. Plus, parce que quand t'as 12-13 ans, 25-30 ans, c'est déjà pour toi.
Il y a déjà un écart d'âge.
Oui, donc je peux te dire que c'est le nombre de fois où j'ai été sollicité dans les métros, dans les bus, on m'a touché, attouché, montré sa quéquette. Enfin, je veux dire, on est dans un pays de détraqués. Et pour la petite histoire, même si c'est une grosse histoire, j'avais déjà dit, mais à 10 ans, je suis partie en vacances en Dordogne. Donc c'était à Trémola, dans une famille. Voilà, parce que mes parents n'avaient pas d'argent. On avait des familles au sein de l'église qui nous disaient, vous pouvez aller là-bas. Donc, c'était pas quelqu'un de l'église, c'était dans la famille de quelqu'un de l'église. Et donc, je suis partie à 10 ans. Et ce monsieur, donc père de famille de 5 enfants, venait chaque nuit m'a touchée au point que je l'ai déclarée et qu'on m'a changé de famille. Heureusement, on m'a écouté et on m'a changé de famille. Donc, je vous dis qu'on est dans un pays de gros dégueulasses. Et franchement, il y a un moment.
Vous avez été inquiété à l'époque ou
pas? Mais pas du tout. Je pense pas. Pas du tout. J'ai juste dit, on m'a dit, écoute, on va te changer de famille. Et je me souviens qu'à l'époque, parce que ce monsieur-là, ce gros dégueulasse qu'on a vu, il doit avoir une famille qui est au courant qu'il a déjà été arrêté. D'accord? Et donc, t'as toute une famille, quelquefois, qui couvre ce genre de personnes. Et tout le monde est au courant, mais personne ne fait rien. Donc, franchement, moi, je suis scandalisée. Regarde, pour moi, c'est la guillotine. Par contre, dire ça, mais c'est la guillotine.
Parle de sa famille, mais tous les gens qu'on protégeait Depardieu, alors que Depardieu, t'as quand même factuellement des discours qui parlent d'une gamine qui fait du cheval à côté de lui en disant voilà, ça lui écarte bien le.
Mais oui.
Et tout le monde l'a défendu derrière.
Mais
à un moment donné, en France, on a cette culture. Rappelle-toi, aujourd'hui, on est en train. Quand tu revois les images de Maznev chez Pivot qui t'explique que c'est bien de coucher avec des enfants et tout. Enfin,
On a progressé quand même depuis.
Oui, on a progressé, mais pas assez, Olivier. Parce qu'en 2026, tu te chopes un père de famille de 40 piges qui a tripoté les gamins, les copains de son gamin. Tu te retrouves avec des histoires partout. Tu te retrouves avec un mec de 24 ans qui couche avec une gamine de 12 ans. Et qui dit, après les gens disent c'était sa petite amie. 24 ans, 12 ans, c'est quoi la petite amie? C'est un violeur et basta, on arrête là-dessus. En fait, on a encore ce truc de se dire, c'est grave, mais pas tant que ça.
On a bien protégé l'abbé Pierre pendant 40 ans.
Exactement.
Et puis, avec ce genre de méthode, c'est pas mal parce que la peur va changer de camp. C'est-à-dire que les prédateurs sur les réseaux sociaux vont commencer à se méfier en disant, est-ce que je parle à ma prochaine proie ou au contraire à un type qui a
craint d'avatar? C'est quoi la réponse de l'État?
Justement.
C'est quoi la réponse de l'État? Ils vont embaucher les gens?
C'est la crainte aujourd'hui des avocats et même des enquêteurs. Voilà. Des enquêteurs, c'est-à-dire, quand tu pièges comme ça un pédophile présumé, c'est que s'il est exposé, il détruise lui aussi les preuves, ce qu'il a sur ses ordinateurs, ou même s'il vit seul, qu'il s'enfuit, qu'il parte ailleurs, si tu veux. Voilà, les enquêteurs disent attention à ce genre de piège ou de justice expéditive. Ça peut avoir un effet inverse.
Quand
Joël,
tu vois la lenteur de la justice, quand tu vois aussi le temps que les victimes prennent à se déclarer. Je veux dire, quand on attrape un comme ça sur le fait, moi je vais pas dire attention au piège machin, mais bien heureux, mais qu'il soit des millions à faire ça. Franchement, ça ira beaucoup plus vite. Là, le type, il est coincé. Qu'est-ce qu'il va dire? T'as les images, t'as les preuves. Oui, bien sûr, il y a la justice qui va faire son travail. Il est présumé innocent. Mon œil. Je veux dire, là, c'est foutu pour lui. Et tant mieux, quoi.
Moi, ce que j'aime bien, c'est
parce
le côté
que c'est jugé name and shame. Ouais. C'est-à-dire qu'on affiche les gens. C'est un truc qu'on n'a pas trop chez nous en tradition. On cache les noms. Mais en fait, moi, je voudrais qu'un pédophile, on l'oblige à avoir un panneau dans chez lui.
C'est ce qu'ils font.
Là, il n'a pas été condamné. Les avocats vont dire que c'est une infraction ce qui s'est passé.
Oui, ça, c'est sûr.
Exactement.
Je pense que judiciairement ou juridiquement, ça ne va pas aller assez loin. Mais par contre, en tout cas, il est récidiviste. Socialement, tu l'as attrapé.
Oui, mais d'accord. Mais lui, il va dire que comme il n'y a pas de victime, puisque c'est une créature de l'intelligence artificielle, il a dit j'ai tout. Donc il y a pas de dommage.
Non, mais qui se défendent comme ça.
Tu sais, c'est comme ils se défendent comme ça.
C'est comme l'avocat de Sarkozy, ils peuvent dire ce qu'ils veulent à la fin, c'est acté.
On a David qui est avec nous. David qui est dans le Vaucluse et qui a suivi justement cette affaire en direct. Bonjour David.
Bonjour les GG.
Vous avez suivi en direct le live, le piège en fait.
J'étais en direct. Alors c'est un streamer que je suis un petit peu régulièrement sur TikTok par exemple. Ouais. En fait l'algorithme propose souvent des trucs et je tombe souvent sur lui. Et quand il est en direct, je regarde ses directs. Et quand je suis arrivé sur le direct, c'était en cours. En fait, ce monsieur était déjà en train de parler à cet avatar. Et du coup, j'ai suivi la conversation et puis c'est devenu de plus en plus fou, quoi. Parce que là, vous passez des petits extraits, il y a beaucoup de chaînes qui passent des extraits, mais il était vachement plus loin dans ses propos, quand même, le type.
Qu'est-ce qu'il disait?
Ah, en fait, il voulait savoir si la petite voulait recevoir des photos de son sexe, par exemple.
Ah, carrément.
Je crois qu'il lui a proposé de se dénuder aussi, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Tout à fait. Bah, c'était un truc hallucinant. Donc moi, je suis resté scotché sur ce truc pendant...
Mais pourquoi, pendant, pourquoi vous l'avez suivi, ça aussi, d'ailleurs? Pourquoi vous êtes resté scotché dessus, à le regarder?
Comment,
dites-moi.
Comment on tombe dessus? C'est un algorithme, hein, TikTok. Donc du coup, quand on tombe dessus, il propose plusieurs directs. Et puis lui, on était 42 000 ce jour-là à regarder en direct.
42 000 à vouloir qu'il se fasse piéger, quoi, en fait, c'est ça?
Ben, ouais, et en plus, là, c'est fini vie, hein, le gars. Lui, il discute avec, mais les internautes qui sont en direct en train de regarder, il y en a beaucoup qui ont... C'est eux qui ont retrouvé le gars.
D'accord.
Vous voyez, c'est pas lui qui a retrouvé toutes les informations. C'est qu'il y a beaucoup d'internautes derrière leur écran qui font des recherches, du coup, qui ont trouvé son nom, qui ont trouvé son adresse, presque. Son numéro de téléphone, il y a des gars, ils sont forts aussi par rapport à ça.
Ouais, faut espérer qu'il n'y ait pas de vengeance de qui que ce soit qui aille chercher le bonhomme.
Non, ce qui est bien, c'est qu'après,
il est en prison, là, déjà, donc.
Oui, parce que, en fait, il a été après dénoncé à la police. Oui, moi, je trouve ça bien, c'est comment la pression sociale l'a emmené au moins jusqu'au commissariat, tu vois.
Alors, il a eu peur.
Le jour même, en fait, j'ai fait un peu comme tout le monde, quand j'ai vu son nom qui était écrit, je suis allé voir un peu sur les réseaux, son profil. Son profil LinkedIn, notamment, il était bien noté, président de l'UNSS et tout, en fait. Et il y avait même sur Internet, il y avait déjà des histoires sur son passé de délinquance sexuelle, quand même.
Ouais, donc en fait, il y a quand même une certaine impunité parce qu'il a 66 ans. J'imagine qu'il s'est pas découvert pédocriminel à 66 ans. Donc en fait, c'est pour ça que moi je trouve que derrière... derrière, il faut aller enquêter sur lorsqu'il était prof. Il faut que l'éducation nationale, à un moment donné, il faut pas s'arrêter uniquement à ce dialogue avec cette jeune fille.
Si j'ai bien suivi, il avait déjà été accusé d'agression sexuelle.
Allez-y,
David. Là, du coup, avec toute cette histoire qui arrive là, ce mec, il y a plein de gens qui disent mais c'était mon prof.
Oui, c'est vrai.
Donc il y a toutes ces histoires qui remontent que peut-être la justice à l'époque n'a pas entendu.
Donc
David, il y a aussi un problème là-dessus quand même, non?
Vous avez raison, David. Je vous remercie d'avoir été avec nous, éducateur du côté du Vaucluse, et ça intervient alors qu'on a l'affaire, vous savez, des assistants maternels aussi à Paris. Puis je regardais, il y a une autre histoire aussi, un babysitter qui avait déjà été condamné et qui a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur une vingtaine d'enfants dans le Nord. Et il avait déjà été condamné pour avoir agressé ou violé sexuellement entre 2023 et 2025, 18 enfants. Et puis il avait aussi des photos d'agression sur des animaux.
Surtout que lui...
Agression sexuelle sur des animaux.
Lui, le problème, c'est qu'il avait donc été attrapé... donc il avait interdiction de travailler avec les enfants. Il a fait sa peine et ensuite il est monté dans le Nord de la France. Il a bravé son interdiction. Les parents le savaient pas, donc ça pose aussi un problème de fichiers, de contrôle. Et donc il a eu, je crois qu'il a gardé jusqu'à 58 enfants. Hein. Et certains donc ont été agressés sexuellement. Ça pose aussi une question du suivi et du soin, parce que au-delà de ça, c'est est-ce qu'un pédophile se soigne tout seul? Est-ce que quand tu as comme ça
des déviances
sexuelles, est-ce que tu arrives toi-même et des pulsions, est-ce que tu arrives toi-même à t'auto-réguler, à t'auto-soigner? J'ai du mal à y croire.
On va continuer d'en discuter, cette affaire, ce pédocriminel qui a été démasqué par en live, en direct. Hein. Sur les réseaux sociaux, avec ensuite son visage, tout qui a été retransmis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est une justice expéditive? 32-16 pour en discuter avec les GG. Il est 9h20. Vous êtes avec nous en direct sur RMC, RMC Story.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Les grandes gueules, c'est sur RMC et RMC Story. On revient sur ce pédocriminel présumé qui s'est fait piéger en direct sur TikTok grâce à l'intelligence artificielle. Alors, ça a été une méthode efficace, parce que le type de lui-même, comme il a été exposé au grand jour, à visage découvert, sachant qu'il avait déjà été condamné, mais il s'est présenté lui-même. Il a été placé en garde à vue, il s'est présenté à la police. Ça interroge sur la méthode aussi, parce que le risque, c'est que la personne s'enfuit ou éventuellement qu'elle détruise des preuves qu'elle a dans ses ordinateurs. Donc on en discute avec vous au 32-16. On a Thierry qui veut réagir. Thierry de Charente, bonjour Thierry.
Bonjour à tous.
Qu'est-ce que vous en dites, Thierry, de la méthode?
La méthode, quelle que soit la méthode, à partir du moment où on attrape, c'est... j'ai pas de mots, donc je voudrais pas être violent dans mes propos, je préfère pas en dire. Déjà, le récit de Joël tout à l'heure m'a glacé le sang. Je suis un homme comme vous et j'en ai marre d'être sali par ces pourritures. On n'a qu'à les castrer chimiquement, quoi. Je veux dire, il y a des méthodes qui existent. Il faut leur passer dans le vide, ces types-là. Il faut.
Oui, mais la castration chimique, c'est une prise de médicaments. Si la personne ne prend pas ses médicaments, ou alors il faut une obligation de soins. Il faut, dans ce cas-là, qu'elle aille pointer la personne. Voilà. Il faut un suivi.
Ces types-là sont violents, mais violents à un niveau incroyable, quoi. C'est une violence, ça détruit. Moi, j'ai une fille qui a 14 ans, mais je sais même pas comment je réagirais, quoi. Je veux dire.
Pour vous, peu importe la méthode, ce qui compte, c'est les démasquer.
Je vais être cru, mais on lui coupe, quoi. Je veux dire, il faut trouver un moyen il faut plus qu'ils soient en liberté, ces gens-là, ou qu'on
leur coupe leur vie, quoi que ce soit. Si je vous suis, si on les coupe et ça n'empêche pas la pulsion, en fait, ça se passe dans la tête plutôt, hein.
Ouais, mais il y a des méthodes médicalement, ça existe. Ouais. Après, on trouve la technique pour qu'ils les prennent. Enfin, il faut les empêcher de nuire, ces types-là. Il y en a de partout. On en a dans tous les coins de France, que ce soit la campagne, dans la ville. Il faut arrêter. Il y en a marre d'avoir des gamines violées, abusées sexuellement par des détraqués sexuels qui, en plus, au niveau social, il n'y a pas de ligne, quoi. Je veux dire, ça peut être n'importe qui. Ça peut être un cadre, ça peut être un ouvrier.
Tous les milieux sont concernés.
Il faut, je veux dire, un abbé. Il faut taper fort. Oui. Il faut taper très, 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 très fort. Mais très fort. Et il faut que ça fasse mal, quoi. Parce que les petites, elles ont mal à vie. Je répète Joël tout à l'heure ce qu'elle a dit. Je veux dire, des années après, elle en parle encore et ça glace le sang. Donc, ça marque des femmes à vie.
Bien sûr.
Donc, il faut taper très, très, très fort et je serai très violent, moi.
Ou des garçons aussi, hein, parce que ces femmes et.
Joël, tu voulais réagir à ce que dit Thierry.
Non, mais que ajouter à ce que dit Thierry, c'est la complète vérité. Moi, je regarde un peu aussi le traitement de l'affaire Epstein. Comment ça s'est vite évaporé quand même. Enfin, en tout cas, les dossiers, je veux dire, c'est pas possible que ce type qui avait une résidence secondaire en France, on parle d'une résidence secondaire, on parle pas je viens à l'hôtel, machin, non. Donc il habitait carrément à Paris. C'est impossible que ce type, il n'y ait que Jack Lang. Enfin, je veux dire,
attention, il ne faut pas porter des accusations en l'air.
Bah non, c'était supposition, j'ai pas donné le nom.
Epstein, c'était, il pratiquait ce qu'il en ressort des enquêtes, et notamment, je vous conseille de lire le Society, où il y a une enquête incroyable sur Epstein. Ce qu'on comprend, c'est que lui, il voulait pas partager. C'est-à-dire qu'il avait des proies et c'était pour sa propre consommation. Visiblement, c'était pas des orgies ou des partouses avec des jeunes filles.
C'est génial ce que tu me racontes. Donc en fait, dans les chiffres, on a un pays quand même où on est tous d'accord qu'on a un problème de pédocriminalité. On a des affaires qui sortent toutes les secondes. Mais par contre, Epstein, tout d'un coup, lui, c'est que lui. Lui, à Paris, c'est que lui et les jeunes filles.
Si,
personne d'autre en France, dans un pays qui a autant de problèmes de pédocriminalité, on n'a que Jack Lange. Bah non, tu es en train de me dire que.
Il n'est pas accusé de pédocriminalité. Il porte des accusations qui sont graves et qui ne sont pas avérées.
Non, mais je n'ai pas dit qu'il était accusé de pédocriminalité. Je dis qu'il n'y a que lui dans le dossier. On s'est focalisé que sur lui dans le dossier.
On a lancé des noms comme ça.
Mais quel nom? J'ai juste dit Jack Lange, c'est un nom qui est sorti. Je n'ai pas inventé un nouveau nom. D'accord.
Il a été arrêté. Jacques Lange, on lui reproche d'avoir fréquenté Epstein. Il n'est pas accusé d'autre chose.
Maxwell, elle a été arrêtée. Brunel, il a été arrêté. Il s'est suicidé ensuite.
D'accord.
Donc, si tu veux, après, c'est compliqué quand les principaux acteurs de l'histoire.
Je comprends.
Tu veux, deux sont suicidés et la troisième, Madame Maxwell, elle est en tôle et elle ne parle pas. Elle donne pas de nom.
La vraie question, le vrai débat, c'est pourquoi Epstein effectivement a pu agir dans une sorte d'impunité pendant toutes ces années.
Oui.
Moi, je pense que la vraie question d'Epstein, c'est le pouvoir. Oui. Le pouvoir qui protège, ses connaissances, son carnet d'adresses, le fait qu'il était l'ami des grands de ce monde, qu'il était l'ami d'anciens présidents. Oui. C'est ça qui, à mon avis, le vrai sujet Epstein, mais le fantasme toutes ces personnalités participaient à ces viols.
Mais je te dis que cette complaisance. Cette complaisance qu'il y a eu pour ce monsieur, quand même, je trouve qu'il n'y a pas assez de noms qui sont sortis parce que c'est un système qui a été contrôlé. Chez nous, je trouve qu'on a été assez léger.
Le pouvoir qui n'a rien fait pendant toutes les années, ok, mais le pouvoir actuel, il ne fait rien non plus, parce que je suis désolé, on pourrait faire une enquête, pas seulement sur ses crimes, sur la pédocriminalité qu'il a faite et tous les viols qu'il a pu faire, mais aussi sur ses relations avec les grands du monde, puisqu'à un moment donné, ce mec, tout le monde sait que c'est un espion du du Mossad. Donc il a fait de l'ingérence dans les pays.
Ça n'a jamais été prouvé.
Bah, en tout cas, bah, c'était écrit dans pas mal d'articles où le mec disait que c'était un
espion. Il y avait beaucoup de choses dans les dossiers. Il y a beaucoup de noms qui ont été cités sans forcément qu'il y ait de preuves.
Non, mais par contre, un truc question en tout cas, c'est qu'il a fait de l'ingérence auprès du prince Andrew. Je pense qu'il a fait de l'ingérence dans d'autres pays du monde et c'est acté. Mais à un moment donné, qu'on y aille.
Mais tout ça est raconté. Il y a des enquêtes partout.
Oui, mais il n'y a pas d'enquête politique chez nous. Ça, c'est un peu un problème en fait, mine de rien.
Autant il faut pointer du doigt lorsqu'effectivement on a l'impression que les choses n'avancent pas. L'affaire de, par exemple, du périscolaire parisien, là il y a une impunité ou en tout cas il y a un manque de réaction. Alors maintenant ça a changé. Le nouveau maire de Paris a l'air d'être beaucoup plus proactif, tant mieux.
Oui, les élections passées.
Mais je remercie Thierry d'avoir été avec nous. Je propose d'écouter un avocat qui réagissait à cette affaire ce matin. Il est spécialisé justement dans les affaires de pédocriminalité. Il était chez Mathieu Béliard en direct sur RMC et RMC Story.
Bon, ce qui pose problème, c'est qu'il s'agit d'une infraction. Le fait de diffuser des informations personnelles dans le but de nuire à une personne est réprimé par les dispositions de l'article 223.1.1 du Code pénal. Que l'on chasse des pédocriminels sur Internet, c'est une bonne chose, puisque l'État ne le fait pas. Mais ça ne peut pas se faire comme cela. D'une part, ça va permettre aux pédocriminels d'effacer les preuves. Il y a peut-être aussi une enquête qui aurait pu être mise en place si, au lieu de le faire en direct... ça avait été fait en différé, remis au service de police, comme le font des associations telles que la Team Noire, qui ont un process très précis.
Voilà, vous avez entendu l'avocat avec les craintes justement judiciaires.
On peut être d'accord avec lui, sauf qu'à un moment donné, il dit oui, ça va pas aller, ça va, enfin, les preuves peuvent être effacées. Je suis désolé, il a déjà été condamné. Mmh. Bah, il est encore en contact avec des enfants. Exactement. Il se vante pour être le président ou le vice-président de l'association du sport scolaire. À un moment donné, qu'est-ce que tu fais pour que ça s'arrête?
Vice-président du comité olympique et sportif de Haute-Saône.
Voilà, qu'est-ce que tu fais pour que ça s'arrête en fait? Et à un moment donné, oui, alors la méthode peut-être qu'elle est décriée et que la méthode peut-être qu'elle est pas légale, mais qu'est-ce que tu fais pour que ce monsieur s'arrête de pouvoir draguer des gamines de 14 ans et leur montrer
ce que nous démontre. C'est l'intérêt de ce qu'a fait ce vidéaste. C'est-à-dire que malgré sa condamnation, il continue. C'est-à-dire que la condamnation n'est pas suffisante pour arrêter cet homme.
Ça peut aussi peut-être interpeller les pouvoirs publics et tout le monde en disant que quelqu'un qui est condamné et qui purge sa peine, quelle qu'elle soit, peut continuer après à être ça. Donc à un moment donné, il faut un suivi, comme tu dis, un suivi psycho, un suivi médical. Et puis qu'à un moment donné, qu'on ait un fichier des délinquants sexuels en France qui soit à jour tous les jours.
Il y a quelque chose qui m'a quand même glacé le sang dans ce qu'il a dit à la petite. À un moment, il a dit si je t'emmène au parc. Ouais. Non, mais tu te rends compte? Donc on n'est pas juste en ligne où envoie-moi une photo de machin. Ouais. Il a dit si je t'emmène au parc.
Il veut passer à l'acte.
Mais donc ça veut dire que oui, il veut passer à l'acte. Mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ce monsieur un jour va pas décider de tuer pour pas avoir de preuves, etc. Tu vois? Donc moi, je comprends ce que l'avocat il raconte, mais moi je suis contente qu'on l'ait arrêté tout de suite le temps de faire l'enquête et que ce monsieur continue à parler à d'autres jeunes filles. Mais attends, on va où?
On a Rudy qui veut témoigner, il nous appelle des Hautes-Alpes. Bonjour Rudy.
Oui, allô, bonjour. Merci de me recevoir.
Je vous en prie, vous vouliez témoigner parce que cette affaire, ça vous touche de près en fait.
Mais complètement en fait, c'est par rapport, je suis désolé, je suis assez ému, par rapport à ma fille, elle a eu deux affaires malheureusement. Il y a un an et demi, il y a le papa d'une ancienne copine que ma fille avait rencontrée, cette copine-là. Ce papa a pris le téléphone de ma fille pour faire une soirée pyjama. Oui. Et du coup, ma fille, elle savait pas quoi faire, elle nous l'a caché tout simplement. Entre-temps, on a recherché des recherches sur son téléphone parce qu'on a une application Esprit. On a vu tout ce qu'il avait envoyé, tout ce qu'elle avait envoyé elle aussi par la suite. On a été voir la police, on a porté plainte. Et cette personne-là, elle a été jugée assez rapidement, on va dire. Et cette personne-là était entraîneur de rugby. Ma fille, elle a 12 ans. Lui, il a 38 ans. Et il a été condamné à 6 mois de sursis. C'est tout. Il a été condamné à 6 mois de sursis. Et il y a une seconde affaire, malheureusement, devant le collège. Ma fille, quand elle sortait, il y avait un monsieur... Elle discutait avec un monsieur...
Sursis, c'est pas une condamnation.
Elle discutait avec un monsieur par la suite... Et malheureusement, ce monsieur-là, il a pris ma fille dans la voiture, il l'a violée. Donc, pour l'instant, c'est en attente du procès.
Jugement.
De jugement.
Et lui, il est où, lui?
Lui, il est en liberté, du coup, parce que.
Ah bon,
et cette personne-là a déjà violé deux petites filles.
Bah, attendez, pourquoi il est en liberté?
Mais le procureur et le président ils ont fait savoir comme quoi il fallait le mettre en prison, détention provisoire. Ouais. Et derrière, il y a qui décide, c'est le juge des libertés.
De liberté, oui.
Ouais. Et lui, il a dit qu'il n'était pas dangereux. Et
ah
du
bon,
coup, il peut rester libre.
Donc, le fameux juge des libertés.
C'est ça.
On pourrait proposer leur suppression.
Et votre fille, comment va-t-elle? Parce que c'est ça aussi.
Ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que au collège, maintenant, elle a peur de tout. Elle le voit parce qu'il habite à côté de chez nous, pas très loin, quoi, parce qu'on habite sur Gap. Et elle a peur.
Il n'a pas de mesure d'éloignement?
Aucune mesure d'éloignement.
Donc il est remis en liberté, mais il est sous contrôle judiciaire quand même, j'espère.
Mais en fait, on n'a pas eu plus d'infos que ça. La police nous a fait savoir que eux, ils auraient bien voulu le laisser en prison, sauf que malheureusement la justice a refusé. Et du coup, tout le monde se demande pourquoi en fait. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la dernière fois, j'ai remarqué qu'il était encore sur Snapchat en fait. Et j'en suis sûr que il continue. Donc c'est pour ça. Je veux bien que ça. On dit que la justice avance sur tout ce qui est pédophile, mais pour moi, pas du tout. C'est
Joël.
Et l'État va payer les soins que votre fille va devoir faire dans sa vie, dans toute sa vie, pour retrouver. Enfin, je veux dire, personnellement, j'ai fait 2 psychothérapies. Enfin, j'en suis sortie. Je vais dire, peut-être il y a quoi, 7-8 ans. Ça prend une vie en fait pour sortir de tout ça. Donc franchement, l'État va payer avec son laxisme toutes les thérapies, les psychiatres et autres choses que votre fille va devoir suivre pendant des années pour se construire une vie de femme normale. Enfin, je sais même pas quoi.
Il va falloir légiférer parce que regarde ce violeur en Bretagne là qui a violé des enfants, qui prend 30 ans mais qu'à la fin on lui donne que 8 ans et qui ressort et qui va habiter dans la même ville à côté des gamines qu'il a violées, qui sont maintenant des adultes. Et en fait, il y a un vrai suivi législatif et autres pour qu'à un moment donné ça commence au moment donné où tu l'attrapes ou surtout pour empêcher les gens de faire ça, tu l'attrapes et surtout après quand ils sortent, parce que quand ils sortent ils sont pas soignés, c'est pas la prison qui soigne un homme en fait.
Non, et en plus je reviens sur cette histoire, mais ma fille elle est suivie du coup par des psychologues, du coup compliqué pour elle, et il y a une semaine elle a été convoquée par une psychologue judiciaire par rapport justement à cette histoire là et à la fin quand je demandais à la psychologue judiciaire comment ça allait se passer, parce que moi je suis dans le flou total, parce qu'il y a un juge d'instruction, il y a quand même un parti civil derrière, il y a pas mal de choses, parce qu'il y a plusieurs petites filles, et malheureusement les autres familles n'ont pas porté plainte parce que financièrement ça coûte cher, et du coup ce qui se passe, c'est que la psychologue judiciaire nous a fait savoir que ça serait possible de faire attention, autant il n'aura rien du tout, il peut être jugé irresponsable. Donc je me dis, je fais quoi? Si je suis irresponsable, je vais le voir, je le tue. C'est pas possible, quoi.
On comprend votre désarroi, oui.
On comprend effectivement votre détresse, votre désarroi. Il t'a souhaité que vous et votre fille, effectivement, ne soyez pas laissés sur le côté et pris en main et aider Rudy. Je vous remercie de ce témoignage terrible. C'est vous qui aurez conclu notre discussion. Un pédocriminel piégé par une IA. Est-ce que vous trouvez la méthode efficace? On va voir ce que vous en dites. Vous dites oui à 93%. Suite des GG dans un instant. Il est 10h20. Restez avec nous sur RMC, RMC Story.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules, c'est sur RMC et RMC Story. Joël Dagosséry, Bruno Poncet, Antoine Dierce, voilà les 3 grandes gueules qui sont là aujourd'hui. Et tout à l'heure, nous serons rejoints par Patrice Duhamel pour parler de la santé de ceux qui nous ont gouvernés. Jacques Chirac, François Mitterrand, Georges Pompidou, le général de Gaulle, ces secrets que l'on a de santé qu'on a cachés aux Français. Le crépuscule des dieux, Patrice Duhamel sera avec nous.
C'est tout à assez l'heure. Édifiant. Nous sommes dirigés par des gens malades.
Est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui à
des menteurs?
Est-ce qu'on est arrivé à la transparence totale sur la santé
sur le secret médical
de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui? Est-ce qu'on sait tout? Vous viendrez en discuter si vous voulez avec nous et avec Patrice Duhamel au 32-16 tout à l'heure. On y va pour l'on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas. Bonjour Anaïs Inès Sainz.
Bonjour Alain. D'abord un très joyeux anniversaire à Clarisse qui fête ses 18 ans ce week-end. Oui, voilà, on l'embrasse Clarisse. Auprès de Toulouse. Bon les GG. Êtes-vous éligible à l'aide carburant pour les grands rouleurs? Eh bien, vous allez pouvoir vérifier sur Internet via un simulateur en ligne. Est-ce qu'on s'en fout ou pas? Pourquoi tu...
Vas-y, vas-y. Bruno, tu t'en fous ou pas?
Non, pas du tout.
Joël,
on s'en fout pas.
Et Antoine,
on s'en fout pas.
Plateforme dédiée à l'indemnité prévue pour les travailleurs modestes qui font plus de 15 km par jour entre le domicile et le travail et qui gagnent en dessous de 16 880 € par an. Tout ça pour une aide donc de 50 euros.
Combien ?
50 euros. Joël, pourquoi tu t'en fous pas ?
Écoute, j'avais déjà dit ici que je plaignais ces gros rouleurs qui allaient devoir maintenant aller sur je ne sais pas quoi, machin gouve, pour faire des simulations, remplir des formulaires pour 50 euros, alors que l'État pourrait tout simplement baisser ses taxes. Mais non, comme il adore nous asservir.
Faire ça alors qu'on peut faire compliqué.
Oui, il veut nous asservir, il veut qu'on soit dépendant, qu'on soit devant notre ordinateur. Oh là là, mais 50 euros, je vais faire ma simulation. Et donc non, il t'enlève pas les taxes, il te dit va faire ta petite demande.
Mais
ça coûte
un coup.
Exactement.
J'ai testé le simulateur tout à l'heure.
Éligible ou pas?
Alors non, je suis
t'as
pas
bien
éligible.
Simulé.
Je suis pas éligible, mais j'ai testé pour voir les limites où c'était éligible. T'as entièrement raison. Il y a déjà plein de cases. Nombre de parts fiscales, nombre de machins. Êtes-vous redevable de l'IFI? Il te demande tu payes l'impôt sur la fortune immobilière. Bref, il y a plein de cases. Et à la fin, surtout, il nous avait dit 20 centimes par litre. Et donc tu te disais, celui qui roule beaucoup, j'avais fait une espèce de calcul en disant ce serait 50 à 100 euros, je l'avais dit. Mmh. Mais finalement, en fait, non, c'est pas du tout 20 centimes par litre, c'est 50 euros pour tout le monde.
Ouais, c'est 50 euros pour tout le monde.
Et donc, il y en a pour qui ça va être une belle opportunité, il y en a pour qui roule vraiment beaucoup, ce sera une goutte d'eau finalement. Donc le truc s'effondre, il tombe sur une espèce de forfait, la fameuse politique d'échec. Allez tiens, 50 euros,
donc, il fait toi. C'est un effet d'annonce, c'est ce qu'on appelle un effet d'annonce.
Bruno.
Exactement.
Hier, moi, j'étais à Montparnasse et j'ai discuté avec un chauffeur de taxi qui écoute les grandes gueules. D'ailleurs, il nous salue tous, il salue tout le monde. Et bonjour. Il me disait, en fait, moi, je lui demandais, je lui dis, est-ce que ça va en ce moment? Il me dit, non, je travaille pas. Et en fait, il y avait une queue de taxi à Montparnasse et moi, j'y étais à 10h du matin.
Taxi bosse pas en ce moment.
Il y avait une queue de. Et en plus, je lui dis, mais comment tu fais? Il me dit, j'ai acheté ma licence il y a 5 ans. 160 000 euros. Donc il me dit, j'ai ça à payer, mais je dis, tu vas pas changer de boulot? Il me dit, non, mais tu veux que je fasse quoi? Et puis en plus, il y a une vraie liberté, et il peut commencer le matin quand il veut tout. Et en fait, je dis, mais t'es éligible à ce genre de truc, à des primes, à des machins? Il me dit, non, on n'est éligible à rien du tout. Donc en fait, tu vois, les grands rouleurs
les
et donc
les chauffeurs de taxi ne sont pas aidés.
Ah non, et en fait, là aujourd'hui, ils sont dans une vraie galère, et on les salue tous parce qu'ils écoutent l'émission, et qu'en plus, en fait, aujourd'hui, leur vie, elle est quand même beaucoup plus menacée qu'un tas de personnes, parce que moi, j'aime bien, il y a pas d'argent, personne machin, les trains sont pleins et les autoroutes il y a des bouchons. Donc en fait, à un moment donné, je vais falloir m'expliquer le truc.
Oui.
Par contre, hier, il y avait un tas de taxis moi j'ai vu comment j'étais en gare, j'ai vu plein de trains arriver, il y avait un tas de taxis qui attendaient et personne rentrait dedans. Par contre, le métro, il était à bloc. À bloc. Ouais. En fait, puis j'avais jamais vu une queue comme ça au guichet du métro. En fait, aujourd'hui, les gens sont en train de changer de mode de mobilité intramuros dans Paris parce qu'en fait, je pense qu'ils veulent continuer à sortir, mais par contre,
il y a une question de pouvoir d'achat aussi.
On enchaîne.
Les GG, pour limiter les arrêts de travail, la SNCF met en place un système qui irrite les syndicats. Réduire d'un tiers la prime des cheminots s'il y a trop d'arrêts dus à des accidents de travail dans leur service. Monsieur le cheminot, Bruno Pensait, tu ne t'en fous pas?
Non, non.
Ben, Antoine?
Je m'en fous pas.
Joël?
Je m'en fous pas.
Exemple, dans un technicentre du groupe en Picardie, un tiers de la prime serait perdu si plus de 6 accidents de travail avec arrêt de travail, sont comptabilisés. Bruno?
En fait, c'est quelque chose qui existe dans déjà beaucoup d'entreprises. On l'a vu à la RATP, on l'a vu dans des entreprises industrielles. Où en fait,
et si ça marche?
En fait, vu que l'histoire des accidents de travail, c'est ça. C'est que si tu as plus des accidents de travail qui augmentent, ta prime d'assurance augmente et donc ton patron il paye des ronds, il paye des assurances plus fortes et donc en fait voilà. Donc lui il dit aux gens, et les patrons font ça en règle générale, moins d'accidents de travail et donc derrière on conditionne la prime. Ce qui est gênant c'est de conditionner l'obtention d'une prime à ce genre de choses. Ça veut dire que les gens vont ne pas déclarer d'accident de travail, ça ne baissera pas l'accidentologie parce qu'en fait à un moment donné, si aujourd'hui tu as autant d'accidents de travail dans des entreprises comme la nôtre, ça veut dire qu'en fait tu as des conditions de travail qui sont de plus en plus soit dangereuses.
C'est quoi comme par exemple quel accident de travail?
On parle d'un technicentre, c'est avec quelqu'un par exemple qui va se blesser avec une machine, qui va se faire écraser les doigts par un truc, qui va se couper avec quelque chose. Enfin c'est des accidents de travail assez graves des collègues à moi qui marchent dans le ballast qui se tordent la cheville parce que voilà, t'as beau avoir tous les ustensiles possibles pour te protéger, à un moment donné moi je me suis déjà tordu la cheville dans le ballast parce que voilà, le ballast c'est compliqué pour marcher dedans. Donc voilà, et moi je trouve que c'est dangereux.
T'es assez maladroit aussi.
Oui, je suis assez maladroit. Puis avant j'avais pas de chaussures de sécu.
En talon aiguille, c'est pas assez.
Oui, j'avais des chaussures de sécu avec talon aiguille, c'est quand même pas pratique, faut dire la vérité. Non, mais en fait, t'as un vrai sujet, je ne buvais pas, Naïsens, calme-toi. Mais en fait, c'est un vrai sujet où tu conditionnes l'obtention de la prime à ça, c'est-à-dire que tu vas cacher l'accident de travail pour avoir ta prime parce qu'en fait, effectivement,
Joël.
Moi, je suis contre les punitions collectives. Enfin, je veux dire, ça, c'est une sorte de punition collective. Ça n'existe pas. Enfin, tu es surtout au travail, tu es censé être rémunéré, avoir des primes ou être quand on enlève des primes en fonction de ton activité personnelle, ton travail. Pour moi, c'est un peu contre la méritocratie, ce type de choses-là. Il y a pas à punir collectivement, on n'est pas à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc moi, je suis contre ça et je comprends que les cheminots s'érigent contre ça.
Antoine?
Ben, j'allais avoir la même position que Joël, et moi j'ajoute que une prime de présentéisme me semble intéressante, quoi. Tu as zéro arrêt de l'année, et ben t'as une prime.
Oui, mais enfin c'est le monde à l'envers. T'es déjà payé pour être présent.
Oui, mais en fait
il y a la prime pour l'emploi qui existe. Hein.
Encourageons tous ceux qui évitent le petit arrêt. Moi, je fais partie de ceux qui, je suis enrhumé, je suis malade. Ouais, j'évite le petit arrêt. Je fonce pas chez mon médecin pour avoir le petit arrêt.
Je parle pas de celui... carence pour éviter ça.
Oui, mais donc même en fait, c'est-à-dire que celui qui vient travailler parce que il a un rhume, il vient quand même
récompenser le bon comportement.
Présentéisme, l'investissement.
Quand t'es comme moi dans un bureau, évidemment que tu peux venir bosser avec un masque en disant que t'as un rhume, mais quand t'es dans des collègues qui sont dans un technicentre, qui sont avec des machines à pression, qui sont avec des pièces qui font plusieurs tonnes, t'as vite fait de te casser quelque chose, de t'arracher un doigt ou quoi que ce soit. Donc en fait, malheureusement, ça va être travaillé.
C'est une prime en plus, tu perds rien.
Les GG. À Bordeaux, un homme vient de remporter près de 80 000 euros au casino, mais il ne gardera pas l'argent. Il a décidé de reverser l'ensemble de cette somme à des associations. Le regagnant souhaite garder l'anonymat. Est-ce que vous seriez cap ou pas cap de reverser tout un gain comme ça à des associations, Bruno?
80 000 balles, c'est pas assez pour jouer verse tout, hein. Faut être sérieux, en fait, Moi, je pouvais faire le chevalier blanc, dire, moi, 80 000 balles, j'ai un crédit de 400 000 sur le dos, je pourrais encore rembourser un bout ou changer ma salle de bain.
Ok. Antoine.
À 80 000 balles, elle est belle. Je garde tout. J'assume, je suis de droite.
Moi, je suis une
C'est la différence entre les gens de droite et les gens de gauche.
Même pas un petit quelques centaines d'euros.
Les seuls dons que je ferai, ce sera aussi Tazos ou Zara, mais je ne garde rien d'autre. Je donne rien d'autre. Enfin, je suis pas assez riche pour donner mes 80 000 balles. Hein.
Qui est cet homme?
On ne sait pas. Et on ne sait pas sur quelle machine à sous il a gagné aussi.
Ça veut dire qu'il a peut-être un compte en banque suffisamment garni et qu'il n'a pas besoin des 80 000 euros aussi. C'est peut-être ça. Merci Anaïs Inès Sainz. Dans un instant, la deuxième heure des GG, des grandes gueules. Les rumeurs sur une liaison extra-conjugale d'Emmanuel Macron, une actrice iranienne à l'origine de la gifle présidentielle. Jean-Luc Mélenchon contre Marine Le Pen, c'est la crainte de Gérald Darmanin. Mais est-ce que c'est le pire ou le meilleur des scénarios politiques, Mélenchon-Bardella? Et puis, Master Poulet à Argenteuil, fermé. Pourquoi? Denrées périmées, locaux sales, fermeture administrative. C'est le préfet du Val-d'Oise qui part à la traque des fast-food qui ne respectent pas les règles d'hygiène.
Je donnerai des nouvelles de ma santé.
Oui, on veut savoir.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.